Messieurs, dames, bonsoir. Il est 18h15 à Niamey. Si vous nous rejoignez, vous écoutez les programmes de Studio Kalangou. Aujourd'hui, le forum va parler de la pathologie psychiatrique ici au Niger. Comment se fait la prise en charge en médecine? De nombreuses personnes ignorent la psychiatrie et font appel aux marabouts ou aux tradis praticiens plus qu'aux spécialistes de la psychiatrie. Alors, quelles sont les pathologies psychiatriques les plus fréquentes ici au Niger? Comment se fait la prise en charge médicale? Quelles dispositions prendre pour mettre fin à l'errance dans les rues de certains malades mentaux? Peut-on en guérir de ces maladies? Ce sont à ces interrogations et bien d'autres que nos invités ici présents vont répondre. Nous recevons professeur Douma Jupo, médecin psychiatrique à l'hôpital national de Niamey. Bonjour professeur.
Bonjour.
Nous avons aussi Alfazazi Alzouma, psychologue, toujours au service de psychiatrie à l'hôpital national de Niamey. Bonjour.
Bonjour madame.
Merci à vous, cher invité, de nous avoir honorés de votre présence à la présentation Reylat Soumana. Bonjour à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je demanderai à nos invités de nous présenter la structure qu'ils représentent ici ce soir et le rôle qui leur est assigné. Je commence par vous, professeur.
Bonjour, madame.
Bonjour.
Moi, je suis médecin psychiatre, professeur de psychiatrie, enseignant à la Faculté des sciences de la santé. J'interviens au service de psychiatrie, non pas comme chef de service, mais comme praticien dans le service. D'accord. Et donc, mon rôle, c'est de contribuer à la prise en charge des personnes qui viennent utiliser le service de psychiatrie.
D'accord. À vous, M. Alfazazi, vous êtes psychologue. Quel est votre rôle dans ce service?
Ah oui, merci, madame. Je suis effectivement psychologue au service de psychiatrie, où je travaille avec le professeur Douma et d'autres praticiens. Mmh. Et notre rôle, c'est de nous occuper des aspects psychologiques de la maladie mentale. Parce que vous savez, la santé mentale, c'est un tout dont la maladie mentale elle-même y compris, bien sûr. D'accord. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous travaillons avec les médecins psychiatres, qui ont beaucoup plus un aspect de prise en charge médicale,
d'accord,
donc chimiothérapie, de la maladie mentale. Et nous occupons en tant que psychologues de tout ce qu'il y a comme aspect psychologique autour de cette maladie-là.
D'accord.
Donc voilà notre rôle dans cette équipe de prise en charge.
Merci pour ces présentations. Maintenant que le décor est planté, on va rentrer dans le vif du sujet. En Afrique, les malades mentaux sont parfois perçus comme des possédés par des esprits malins. Ils sont souvent rejetés par leur famille et exclus de la société. Ici à Niamey, c'est le pavillon E qui se trouve à l'hôpital national de Niamey qui est chargé d'accueillir ces personnes atteintes de certaines maladies psychiatriques. Professeur, quels sont les types de maladies que vous rencontrez dans ce service? Quelles sont les plus fréquentes?
Nous recevons plusieurs types de maladies mentales. Et je voudrais apporter quelques clarifications par rapport au terme de maladie mentale.
D'accord.
Vous savez, quand on parle de maladie mentale, en général, les gens ne voient que la personne très perturbée que nous avons l'habitude de voir dans la rue.
Qu'ils appellent communément les fous.
Les fous, voilà. Je n'aime pas ce terme qu'on appelle fou. D'ailleurs, ce terme n'existe plus. Il a été banni par l'OMS. Ça n'existe plus dans la littérature médicale en tout cas.
D'accord.
Et donc, c'est ça que la plupart des personnes considèrent comme maladie mentale. Or, pour bien comprendre ce que c'est que la maladie mentale, il faut d'abord savoir ce que c'est que la santé mentale. Alors, c'est quoi la santé mentale? La santé mentale, définition simple, c'est un état d'équilibre entre le physique, le psychologique et le social.
D'accord.
Ok. Dès qu'il y a rupture d'équilibre, il y a un problème de santé mentale. Et je dis bien problème de santé mentale, qui peut ne pas être un problème de maladie mentale.
D'accord.
Parce que pour répondre à un problème santé mentale, pour répondre à la définition de maladie mentale, il y a un certain nombre de critères.
Donc ça veut dire que si on y a une petite perturbation, on ne parle pas de maladie mentale. Peut-être que c'est juste un malaise ou comment
oui,
dire
oui,
ça?
Oui, j'en viens. Maintenant, je veux essayer d'aller un peu plus en profondeur dans la définition de la santé mentale pour que les gens comprennent. La santé mentale, c'est une aptitude de l'esprit, ok, à faire face aux difficultés de la vie, ok, qui vont venir ébranler l'esprit.
D'accord.
Il y aura problème de santé mentale quand l'esprit se retrouve dans l'incapacité de retrouver son équilibre d'avant. Chaque fois que l'esprit ne va pas être capable de retrouver son équilibre d'avant, le problème, pendant un certain temps, on peut considérer qu'il y a un problème de santé mentale que la médecine va essayer de catégoriser. Donc, vous voyez bien que dans la vie, nous rencontrons des problèmes qui nous ébranlent.
Oui.
Tout le temps, en permanence.
D'accord.
Maintenant, ne deviennent malades que ceux qui auront perdu la capacité de retrouver l'équilibre.
D'accord.
Et toutefois que l'équilibre n'est pas retrouvé, dans un certain délai, eh bien, il y a un problème de santé mentale, le plus souvent une maladie, qu'il faudrait catégoriser.
D'accord. Et dans ce cas, il y a combien de catégories?
Mais il y a plusieurs catégories de maladies mentales.
C'est tout ce que vous rencontrez ici.
Ce que nous rencontrons, c'est surtout les formes qui n'ont pas pu être gérées par la société ou qui n'ont pas pu être gérées par nos autres collègues médecins qui ne sont pas de la spécialité. C'est cela que nous recevons. Donc nous recevons véritablement les cas les plus graves. Les personnes très perturbées ou les personnes qui ont des problèmes physiques à répercussion sur l'esprit. Donc, ce sont ces personnes-là que nous recevons. Bien sûr, nous recevons aussi tout ce qui est complication de la consommation de drogue, tout ce qui est maladie mentale, fonctionnelle, qui ressemble un peu à ce que vous voyez un peu dans la rue pour les familles qui s'en occupent. Donc, c'est ces catégories de malades dont la gestion a dépassé les capacités de la société.
D'accord, mais ces cas dont vous parlez, est-ce qu'ils ont des noms?
Ils ont des noms.
Voilà.
Il y a deux grandes catégories de malades que nous recevons. Nous recevons ce que la médecine appelle les psychoses. Ce sont les maladies dans lesquelles il y a perte de contact avec la réalité extérieure. OK? Donc, le plus souvent, ce sont ces cas que nous recevons parce que la société, dès qu'il y a une perte de contact avec la réalité extérieure, eh bien, la gestion devient difficile pour la société. On les amène vers nous.
Okay.
Mais il y a des maladies dans lesquelles il n'y a pas de perte de contact avec la réalité extérieure. C'est le deuxième cas. Qui sont toutefois suffisamment graves pour que les familles les amènent dans les services de psychiatrie. Puis après, il y a tout ce qui est complications de toutes sortes de maladies, de consommation de drogue. Voilà.
Voilà. Merci, professeur. Je donne la parole à Alpha Zazi, qui est le psychologue au service de psychiatrie. Selon vous, qu'est-ce qui est le déclencheur principal de cette rupture de contact et de non-retour de ces personnes à la réalité?
Oui, et justement, la cause de cette rupture du contact de la réalité, comme le professeur vient de nous expliquer clairement. Et ça, c'est le niveau où on constate que la rupture est là. La rupture est là, on constate. à travers des symptômes, à travers des signes, à travers des attitudes, à travers des comportements. Maintenant, l'élément déclencheur, justement, c'est surtout lorsque ces capacités-là dont il a parlé, ces capacités adaptatives dont nous disposons en tant qu'être humain, sont effectivement dépassées. Mm-hmm. Parce qu'à chaque fois qu'on est confronté à ces difficultés de la vie au quotidien, eh bien, nous mobilisons nos capacités qui sont en nous pour pouvoir y faire face. Et lorsque ces capacités-là sont dépassées, c'est en ce moment justement que la cassure ou la rupture avec la réalité ou la rupture dans l'adaptation à la situation maintenant crée cette rupture de l'équilibre.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une façon pour l'esprit de se protéger de telle ou telle situation qui conduit à cela?
Oui, le fait pour l'esprit de se protéger est dans l'esprit en lui-même, à travers justement tout le processus de maturation psycho-affective de l'individu, donc de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. C'est un processus qui se met en place en termes du développement des capacités adaptatives, justement. Donc il est en nous.
D'accord.
Mais il est en nous, ce qui est sûr, à un moment donné, certains facteurs ou certains paramètres vont faire en sorte que ces capacités-là sont dépassées, justement. Mm-hmm. Et c'est en ce moment que la rupture s'installe.
D'accord.
Voilà.
Et donc, est-ce que certaines maladies peuvent être héréditaires? La psychose dont a parlé le professeur, est-ce que ça peut être héréditaire?
En tout cas, ce qu'on constate, la notion d'hérédité, le professeur va aller beaucoup plus en profondeur là-dessus, mais ce que nous constatons, quand même une certaine fréquence de ces maladies mentales dans les familles où il y a des antécédents familiaux, justement.
D'accord.
Maintenant, la question de l'hérédité, le professeur va nous approfondir.
D'accord, professeur, est-ce que ces maladies peuvent être héréditaires?
Ce qu'on sait présentement, ce que la science sait, c'est que il y a des familles dans lesquelles plusieurs personnes ont la même maladie. Et dans ces familles, vous prenez des arrière-grands-parents, les grands-parents, les parents, les enfants. Ce qui dénote d'une certaine façon un caractère héréditaire. Et des études ont montré que chez certains jumeaux, il y a aussi des traits héréditaires de certaines maladies. Maintenant, concernant les causes de ces problèmes de santé, vous savez, en matière de santé mentale, il est difficile de faire une relation de cause à effet. On ne peut pas isoler un seul élément et dire, moi, c'est ça qui est à la base de la maladie. En général, c'est un certain nombre de facteurs qui se mettent ensemble pour générer la situation de maladie. Parmi ces facteurs, il y a le facteur héréditaire, il y a les facteurs psychologiques, il y a les facteurs de personnalité, il y a les facteurs sociaux qui sont les événements de la vie courante. Et donc tous ces facteurs-là, quand ils se conjuguent, vont venir mettre en difficulté la capacité d'adaptation de l'individu.
D'accord.
Et dès que la capacité est mise en difficulté, il y a, bien sûr, rupture de contact avec tout ce que ça comporte comme symptomatologie.
Pour ce qui concerne une famille spécialement, d'aucuns disent que c'est des génies, entre guillemets, qui se trouvent au sein de la famille, qui passent de grand-père à père à fils, qui se transmettent de génération en génération. Est-ce que cela vous dit quelque chose?
Mais bien sûr, ça me dit beaucoup de choses, puisque je suis nigérien. Mais ce que je voudrais dire par rapport à cette question, c'est que, vous savez, une même chose peut être vue de plusieurs façons. Le schéma de lecture de la médecine de ces problèmes de santé ne fait pas référence à ces considérations-là.
C'est ça.
Par contre, ce même problème, vous le lisez sur le plan culturel, vous allez forcément faire référence à ces choses-là. Donc, il s'agit simplement de paradigmes explicatifs. C'est le même problème qui est expliqué.
Vu de plusieurs angles.
Exactement. Donc, pour moi, aucune définition ne peut exclure l'autre.
Mais vous pouvez en tenir compte quand même.
Mais forcément qu'on tient compte, puisque notre objet de travail, c'est l'être humain. On ne peut pas enlever l'être humain dans sa structure socio-culturelle et le traiter.
Oui.
Donc nous en tenons bien sûr compte. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous travaillons avec les psychologues, avec les sociologues, avec les anthropologues pour justement prendre en compte tous ces aspects-là. Voilà. Dans la prise en charge des patients.
Vous travaillez avec toutes ces personnes-là. Je ne sais pas si vous faites appel aussi aux tradis praticiens ou marabouts, entre guillemets, selon les cas que vous rencontrez.
Faire appel, concrètement, je dis non. Mais nous leur donnons leur place quand même.
C'est-à-dire,
nous savons que ceux qui viennent consulter chez nous, la plupart sont d'abord passés par eux. Ce que nous appelons l'itinéraire thérapeutique du patient que nous recevons. Mmh. Et pourquoi ? Parce que nous sommes dans un contexte, effectivement, culturel, avec les croyances. Et tout ce que cela va donner à l'individu, ou aux personnes que nous recevons, pour être plus concret, et ça leur donne certains traits de personnalité, justement. Mmh. Et des traits de personnalité aussi bien individuels, mais également des traits, si on peut l'appeler comme ça, tout collectif, en termes de croyances. Donc, nous ne pouvons pas soustraire ces croyances-là dans le processus de la prise en charge ou des services que nous offrons aux patients qui viennent vers nous. Mais les impliquer fortement, dire que nous travaillons avec eux en tant que partenaires de soins, non, officiellement, de façon formelle, je voudrais dire. Donc, de façon formelle, non.
Si je comprends bien, après avoir fait les marabouts, les charlatans et autres tradis praticiens, c'est au dernier recours seulement qu'ils font appel à vous.
Pour la plupart. Je dis bien pour la plupart, pas tous. Et à notre début au service de psychiatrie, effectivement, on a compris que des études ont montré pour ceux qui ont eu à faire certainement des publications par rapport à ça, l'itinéraire thérapeutique, c'est vraiment très forte majorité. Passage au niveau des tradis praticiens et le service de psychiatrie est arrivé en dernier recours. Mais ça a évolué. Aujourd'hui, nous ne sommes pas au même niveau avec tous ceux qui ont eu comme sensibilisation.
Qu'est-ce qui a changé ?
Ce qui a changé, c'est-à-dire l'utilisation ou la sollicitation du service de psychiatrie. Aujourd'hui, beaucoup de gens viennent directement chez nous, sans passer par les tradis praticiens. Je pense que ça, c'est l'effet. Il y a eu au concours de plusieurs circonstances. Les sensibilisations, ce que vous faites, par exemple, pour les journaux, les médias et autres, ceux qui viennent solliciter les services chez nous, et les familles qui peuvent répercuter également ceux qu'ils ont vu, ceux qu'ils ont entendu, et surtout ceux qu'ils ont reçu en termes de réponse thérapeutique, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens ont tendance effectivement à commencer vers nous. Mais je précise, sans être trop long, que certainement que le fait qu'ils nous sollicitent n'est pas en train d'exclure aussi l'utilisation de l'autre côté.
Ils font les deux.
Ils font les deux parce qu'à chaque fois, les gens, on le sent. Et c'est normal. C'est normal.
Mais est-ce que les personnes qui fréquentent le pavillon E, le pavillon psychiatrique, est-ce que ces patients-là sont hospitalisés ou bien ils font des allers-retours pour leur traitement?
L'hospitalisation, c'est une indication. Lorsque nous jugeons qu'il y a une indication d'hospitaliser, on propose l'hospitalisation.
À quel moment est-ce qu'il est nécessaire d'hospitaliser un malade?
En fonction de la gravité de la situation en termes de maladie, entre guillemets, le mot gravité, c'est-à-dire l'intensité des symptômes.
Quand la personne réagit comment,
vraiment, quand il y a un état d'agitation, lorsque la personne peut avoir une situation de danger pour le malade lui-même ou pour l'entourage, en ce moment, l'indication d'hospitalisation est là. Ou lorsque nous constatons qu'il y a une difficulté par rapport à l'observance du traitement qu'on va instaurer, au niveau ambulatoire, c'est-à-dire au niveau de la famille, on hospitalise aussi pour calmer, pour arriver à un certain niveau de calme. Après, maintenant, on relâche pour faire le suivi, ce qu'on appelle le suivi en ambulatoire, c'est-à-dire va revenir à des rendez-vous bien codés pour bien suivre la réponse thérapeutique, mais également...
Il respecte ces rendez-vous?
Oui, il respecte.
Et quand la personne ne respecte pas, qu'est-ce qui pourra advenir?
Alors, lorsque la personne ne respecte pas, on explique justement la sortie, la nécessité du retour. Et les gens comprennent. Et quand ils savent qu'il faut revenir parce que le médecin qui a prescrit a besoin d'évaluer pour voir que est-ce que ce qu'il a donné comme traitement est en train d'entraîner une bonne réponse, il doit revenir pour qu'on puisse apprécier voir est-ce que le traitement n'a pas engendré d'autres difficultés.
D'accord.
Parce que tout médicament a des effets secondaires.
C'est ça.
Il doit venir parce que c'est une prise en charge qui doit prendre un certain temps. au long cours, comme on dit. Mm-hmm. Et là, ils comprennent, ils reviennent justement.
D'accord.
Mais la difficulté, une maladie chronique, vous le savez très bien. Maintenant, il y a une partie de votre question. S'il ne vient pas, qu'est-ce qui peut se passer? Que, oui. Ce qui peut se passer, qu'il peut avoir une rechute. C'est-à-dire la maladie peut revenir parce qu'il y a rupture du traitement. Mm-hmm. La maladie peut revenir, c'est ce que nous appelons la rechute.
D'accord. Merci, M. Alfazazi. Vous êtes psychologue à l'hôpital national de Niamey. Professeur Douma, quelle est la démarche à suivre pour entrer en psychiatrie? Comment est-ce que les parents de la personne malade doivent s'y prendre? Est-ce qu'il y a une démarche spécifique?
Bon, il n'y a pas une démarche spécifique. C'est la démarche pour aller à un service de soins, comme ça se pourrait se faire dans un centre de santé intégré ou à l'hôpital national. À quel moment les personnes viennent? Les personnes en général sont amenées pour dès que les familles, dès que les symptômes présentés par la personne dépassent le seuil de tolérance, de tolérabilité de l'entourage.
Il y en a qui disent que la personne va jusqu'à manger les défections.
Oui, vous savez, ce qu'on a constaté, c'est que quelqu'un peut être malade depuis longtemps. Il est chez lui, il ne perturbe personne. Souvent, dans ces cas, on ne se précipite pas pour l'amener à l'hôpital. On va l'amener le jour où il va devenir agressif, le jour où il va se dénuder, le jour où il va présenter des symptômes qui dépasse la capacité de tolérance. Et dans ces conditions-là, ils viennent, ils l'amènent aux urgences. Il est vu logiquement aux urgences. Et en fonction de ce que les médecins qui sont en première ligne à l'hôpital, donc aux urgences, auront constaté, ils vont l'orienter vers le service de psychiatrie, si c'était une pathologie psychiatrique ou dans un autre service. Maintenant, arrivé au service de psychiatrie, ces personnes sont reçues par l'équipe de garde qui fait déjà une première observation, un premier inventaire des symptômes, une première évaluation de la situation, souvent un premier traitement. Et s'il y a nécessité dans l'urgence de faire venir le médecin psychiatre, il est appelé. S'il n'y a pas nécessité, le patient est le plus souvent hospitalisé. Le lendemain matin, il est vu par le psychiatre qui évaluera de nouveau et puis apportera sa contribution au traitement qui a déjà été mis en place. Je voudrais revenir un peu par rapport à la question des guérisseurs, des marabouts.
Oui.
Il y a 3 dizaines d'années, pratiquement tous les patients passer par le marabout avant de venir nous voir, ou par le marabout pendant qu'il vient nous voir, ou par le marabout le dimanche après. Oui, donc c'est quasi systématique. Et d'ailleurs, quand vous leur demandez qu'est-ce qu'ils pensent de la maladie de leur protégé, ils vous disent bon, que ce sont les djinns, enfin ils interprètent ça culturellement.
Les djinns, c'est les génies.
Les un sort jeté, enfin, un certain nombre de choses comme ça. Mais ces derniers temps, la représentation de la maladie sociale de la maladie est en train d'être changée par la force des choses. Assez souvent, on nous dit non, si ce n'est ni djinn, ce n'est ni génie, ce n'est ni sort. C'est la consommation de la drogue, tout simplement.
Et vous recevez beaucoup de cas de jeunes qui consomment les stupéfiants?
Absolument. Maintenant, plus que tout le temps passé.
Vous pouvez estimer?
Écoutez, si vous prenez 100 jeunes qui passent, les 90 on va trouver une notion de consommation de drogue.
C'est plus quelle catégorie? Des élèves, des travailleurs?
C'est toute catégorie, c'est surtout...
Des femmes?
Ça dépend de la substance. Pour le cannabis, c'est surtout les jeunes scolarisés, jeunes étudiants, jeunes fonctionnaires. Pour les autres drogues telles que les substances psychoactives, c'est surtout les travailleurs de force, c'est-à-dire ceux qui
les manœuvres,
les tailleurs, les dockers, les gens qui travaillent avec la force de leurs bras.
Et les femmes?
Les femmes, absolument. les femmes aussi.
Et donc,
malheureusement.
Qu'est-ce qui les pousse, elles, à prendre ces produits?
D'abord, souvent, elles ne prennent pas ça dans le but d'avoir une ivresse. Souvent, elles prennent ça dans la recherche de la finesse, de la beauté, du poids, d'un certain nombre de choses comme ça.
Et c'est les effets secondaires.
Voilà, et des effets secondaires font qu'ils ont des problèmes de santé.
D'accord.
Il y a aussi de plus en plus des jeunes filles qui fument le cannabis et qui prennent les drogues dures ou qui prennent du tramadol.
Mm-hmm. Il y en a de plus en plus.
De plus en plus.
D'accord. Merci, professeur. Monsieur Alpha Zazi, donc, pour tous ces traitements, ça a un coût. Comment est-ce que ça marche? C'est gratuit ou bien comment ça marche?
Oui, pour le coup, il n'y a pas de coût spécifique. Il rentre à l'hôpital. Il vient à l'hôpital, c'est le même coût de consultation. À l'hôpital, c'est les mêmes tarifications par rapport à l'hospitalisation. Il n'y a pas un coût spécifique par rapport à ça.
Pour les hospitalisations,
oui,
il y a des chambres, il y a des lits, comme on voit dans les autres chambres conventionnelles. Est-ce que c'est comme ça ou bien ils vivent
non, c'est un pavillon bien construit avec ses lits, avec beaucoup de chambres. Beaucoup de lits d'ailleurs, mais la seule chose qui manque, c'est qu'on n'a pas de catégorie comme dans d'autres services, tout simplement. Mais sinon, c'est vraiment des malades qui sont sur des lits, comme dans tous les pavillons de l'hôpital.
Avec des accompagnateurs.
Avec des accompagnateurs, bien sûr. Avec des accompagnateurs. Et d'ailleurs, dans le service, de plus en plus, nous sommes en train d'exiger que tous les malades doivent être accompagnés. Tout malade hospitalisé doit avoir un accompagnant. Mm-hmm. Sauf une deuxième catégorie, c'est la catégorie des malades errants, que la force publique nous amène. Et ça pose des difficultés, justement, parce que s'il n'y a pas d'accompagnant, il n'y a pas de surveillance, il peut sortir pour...
Oui.
Il peut tromper la vigilance de l'équipe de garde ou de l'équipe de permanence et sortir sans qu'on le sache.
D'accord. Donc, vous disposez des infrastructures et est-ce que vous disposez de personnel qualifié suffisant?
Oh oui, le personnel qualifié suffisant. Et d'ailleurs, le service a beaucoup... œuvrer pour qu'il y ait ce personnel qualifié. Aujourd'hui, tous les intervenants sont des psychiatres, des psychologues et des infirmiers spécialisés en santé mentale.
D'accord. Et donc, au pavillon, par exemple, vous disposez de combien de pensionnaires, si on peut appeler ça comme ça, et à peu près combien de soignants?
En tout cas, si j'ai bonne mémoire, je vais vous donner le chiffre du staff d'hier matin. C'est autour de 40 patients hospitalisés. 40 patients.
Ils sont sur place.
Je vous parle d'hier,
d'accord,
au staff d'hier. Mm-hmm. 40 patients hospitalisés, parmi lesquels il y a une deuxième catégorie que nous appelons des chroniques résidents. Les chroniques résidents, ce sont des malades qui sont là, qui ont perdu toute attache familiale. Depuis quelques années, il y en a qui ont plus de 20 ans.
Donc, lequel est devenu
là-bas.
Leur chez eux.
Voilà. Et nous personnels, nous constituons leur famille.
D'accord.
Voilà.
Et vous êtes au nombre de combien à peu près?
À peu près le nombre de... Bon, là, je ne vais pas me hasarder à vous donner un chiffre en termes de nombre, en termes d'effectifs. Mais je sais qu'il y a trois psychiatres.
Mm-hmm.
Je peux peut-être aller dans ce sens-là.
D'accord.
Nous avons trois psychiatres. Nous avons quatre psychologues, plus un psychologue faisant... une forme de vacation.
Mm-hmm.
Voilà. Nous avons pour les techniciens officiellement, professeur, on va vous donner le chiffre là aussi.
Écoutez, mais je pense qu'il faut compter les techniciens que nous avons, il faut compter entre 7 et 10. Je n'ai pas les chiffres exactement.
D'accord.
Mais ce qu'il y a, c'est que tous les matins que Dieu fait, il y a aussi, il faut les compter parce qu'ils ils contribuent à la prise en charge. Il y a les techniciens supérieurs qui sont en formation de première, deuxième année, de troisième année.
D'accord,
il y a les étudiants en médecine de septième et de sixième année.
Mm-hmm.
Donc, quand vous arrivez dans le service, il faut compter 30, 40 agents de santé qui sont là, qui s'occupent de toutes ces personnes-là chaque matin.
Donc, et alors, comment se fait la cohabitation entre ces personnes-là et les autres personnes qui visitent à l'hôpital? Je ne sais pas, ils ne sont pas internés, la porte est ouverte, ils peuvent aller venir, ou comment ça se passe?
Bien sûr, les malades qui sont hospitalisés, ils sont, comme il a dit, il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont hospitalisés avec leurs parents,
mm-hmm.
Et bon, ils sont dans le service, ils sont libres de leur mouvement, sous la supervision des personnes qui les accompagnent. D'accord. Il y a la deuxième catégorie, les malades résidents, qui sont aussi libres de leur mouvement, qui considèrent l'hôpital comme chez eux, qui vont faire des courses en ville, qui reviennent, qui prennent leur traitement. Voilà. C'est-à-dire, vous savez, je pense que Kalangou devrait aller visiter.
J'étais là-bas hier. Au moins, j'ai fait 3 ou 4 visites là-bas.
Oui, parce que bon, quand vous vous posez les questions, on a l'impression que c'est pas vous seulement. Hein,
oui,
c'est
oui,
tout
mais
le monde.
Si vous nous autorisez, on peut faire de la vidéo aussi. Il n'y a pas de souci.
Mais je pense qu'on peut envisager et discuter avec les responsables de l'hôpital.
D'accord.
Mais c'est une vie tout à fait normale, tout à fait agréable. Oui, moi, quand je rentre, je n'ai pas envie de rentrer chez moi.
Il faut qu'on le fasse. Alors, ces personnes qui sont soignées, est-ce qu'ils sont tous récupérables?
Mais bien sûr, heureusement qu'ils sont récupérables. Heureusement.
Mais nous, on ne sait pas. Du coup, sinon, on pose la question.
Non, vous savez, les maladies, là, c'est comme les maladies du corps, des autres spécialités.
D'accord.
Prenez les maladies des autres spécialités. Il y a 2 grandes catégories de maladies en médecine. Mm-hmm. Il y a les maladies aiguës et les maladies chroniques. Okay? Mm-hmm. Et quelle que soit la spécialité considérée, il y a des maladies aiguës et des maladies chroniques. Donc si vous considérez la psychiatrie, il y a des maladies aiguës et des maladies chroniques. Mm-hmm. Pour les maladies aiguës, on les traite, ils sont guéri et c'est terminé. Et on n'en parle plus. Et pour les maladies chroniques, eh ben, ils prennent leur traitement, ils sont bien, comme vous et moi. Mais quand ils vont l'arrêter, la maladie revient. C'est comme l'hypertension. Oui. Est-ce que vous avez vu déjà un hypertendu arrêter son traitement sans faire une crise, une poussée d'hypertension? Ça n'existe pas. Donc, ceux qui sont porteurs de maladies chroniques en psychiatrie, tant qu'ils prennent leurs médicaments, ils peuvent vaquer à leur vie active sociale. Mais dès qu'ils vont arrêter le traitement...
Donc le traitement, c'est à vie, comme on le dit.
Pour les maladies chroniques, tout comme l'hypertension, tout comme le diabète, tout comme, l'asthme, tout comme on peut en citer indéfiniment.
D'accord. Donc la personne ne prend pas son traitement, elle fait une rechute.
Elle fait une rechute.
D'accord.
Tout comme l'hypertendu va faire une rechute quand il ne prend pas son traitement.
D'accord, merci professeur. Donc on constate que des personnes atteintes de maladies mentales, appelées fous, entre guillemets, qui errent dans les grandes rues, même si professeur ne veut pas qu'on prononce ce mot, mais c'est vous qui nous l'avez dit. Alors donc, ils errent sur les grandes voies, dans les quartiers, et cela n'est pas évidemment sans danger. Ils sont soit dangereux pour eux-mêmes et aussi pour la population. Dans ces cas-ci, qui sont ces malades-là?
Alors, ce que nous avons constaté, il y a certains qui, c'est dans leur errance, ils sont arrivés, par exemple, à Niamey. Mm-hmm. On ne sait pas d'où.
Ils quittent ailleurs
pour venir à Niamey.
D'accord.
Justement. Et il y a d'autres, ce sont des malades qui sont de Niamey ou de ses environs, qui étaient dans le circuit de la prise en charge pour certains. Mais à un moment donné, la famille a lâché par rapport à la continuité, à la garantie de la continuité de soins, ils se sont retrouvés en situation de rechute, comme le professeur l'a dit tout à l'heure, eh bien, ils n'arrivent plus à s'insérer véritablement dans leur famille et ils choisissent d'aller vivre dans la rue, comme on dit.
D'accord. Et, voilà. Et quelles sont les possibilités de prise en charge pour ces genres de malades qui sont dans la rue?
Alors, pour ce genre de malades, ce qui est sûr, s'il y aura une prise en charge, ça va être une prise en charge en collaboration avec tous les services sociaux qui sont de la communauté urbaine de Niamey. À un moment donné, justement, on a travaillé avec eux dans ce sens-là, où on les prend, on les amène, ou des fois même chez nous, même ils nous disent, ensemble on va pour les prendre et puis les amener. Mais les amener ne suffit pas, il faut aussi qu'il y ait la garantie pour assurer la continuité même de ces souhaits-là. Mm-hmm. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est l'aspect où c'est le volet réinsertion sociale par rapport à ces, à ces, à ces malades-là pour pouvoir minimiser, en tout cas, ou réduire le nombre de malades errants qu'on voit dans la ville. Et ça, c'est une responsabilité de tout le monde.
De tout le monde, oui.
C'est une responsabilité de toute la société, c'est une responsabilité par rapport aux décideurs, etc. etc. Si chacun met sa main, effectivement, on pourra faire quelque chose par rapport à ces malades-là. Parce qu'on peut récupérer
on
aussi,
peut
pas
les
mieux.
Récupérer
on
aussi.
Peut les récupérer, justement.
D'accord. Il suffit juste qu'on les aide.
Mais bien sûr. Et j'ai encore en mémoire quelques-uns d'entre eux qu'on nous a amenés comme ça en situation d'errance, qu'on a pu, avec le traitement, ils sont arrivés à un certain niveau de stabilisation. Et leurs familles ont fini par venir les prendre et les ramener jusqu'au village.
D'accord.
Et les mettre dans le circuit de la prise en charge en ambulatoire.
D'accord.
Avec des rendez-vous.
D'accord.
Donc vous voyez que c'est vraiment jouable.
Merci, Monsieur Alfazazi, professeur Douma. En 2018, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un malade mental qui a violé une fille. Et aussi, vers le CG11, il y a un autre qui a poignardé un garçon qui a été brûlé vif. Comment est-ce que vous appréciez, le comportement qu'a la population vis-à-vis de ces personnes malades-là? Est-ce que c'est bien de réagir comme ça?
Non, c'est pas bien. Vous savez, la représentation que nous avons de la maladie mentale, c'est ce qui nous amène à réagir violemment vis-à-vis de ces personnes-là.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, il est en nous, culturellement, qu'un malade mental est dangereux.
Mm-hmm.
Moi, ça va faire 30 ans que je travaille en psychiatrie. J'affirme qu'il n'y a pas plus de violence en psychiatrie qu'à l'extérieur. Oui. Et donc, cette représentation-là, c'est une représentation erronée qui fait que nous stigmatisons les malades. Aujourd'hui, il suffit que vous alliez en psychiatrie une seule fois pour que vous ayez une image, une étiquette particulière que la société vous affiche.
Mmh.
Alors, tous les malades qui sont dans la rue, ce sont des malades qui ont perdu contact avec la réalité.
C'est ça.
Donc, ils sont dans un monde.
Leur monde.
Dans un monde à part. À partir de cet instant, on peut penser que plusieurs types de comportements soient possibles, y compris de la violence. Voyez-vous? Mais c'est seulement la violence qu'on voit.
Mm-hmm.
Mais on ne voit jamais le malade mental qui est couché sur le dépotoir ou qui prend l'eau du caniveau comme eau de boisson. Voyez-vous?
Oui.
Mais il suffit qu'un malade mental pose un acte, un seul acte. Comme c'est un malade mental, bien, émotionnellement, ça va prendre une grande proportion.
Oui.
Je ne suis pas en train de minimiser ce qu'il pose comme acte.
Oui.
Je suis en train de relativiser ça. Vous avez des personnes qui n'ont aucun problème de santé mentale, qui ont posé des actes graves, mais ça ne prend jamais l'ampleur que celui posé par un malade mental. Ce qu'il faut savoir sur le plan juridique, c'est qu'un malade mental, il est juridiquement irresponsable.
Mmh.
Et donc, à partir de cet instant-là, c'est la société qui doivent le prendre en charge dès lors qu'il est dans la rue et sans contact avec la réalité.
Il y a de la responsabilité.
Donc,
de tout le monde.
Bien sûr, s'il est irresponsable, c'est que c'est la société qui est responsable. Et donc la société doit faire en sorte, créer un mécanisme, des structures pour, en tout cas, prendre en charge tous ces malades qui sont dans les rues,
mm-hmm.
qu'on juge le plus souvent à tort dangereux. Mais nous sommes dans une population, même dans une population normale, il y a de la violence.
Il y a de la violence.
Voilà,
voilà, je vais donner la parole à M. Alfazazi. Qu'avez-vous à dire aux populations pour ce genre de cas, au cas où ils seraient confrontés à des situations comme ça?
Alors, l'appel que j'ai à lancer, c'est d'abord la prise en charge de ces malades-là. Il faut que nous agissions sur deux aspects. D'abord, l'aspect préventif et l'aspect prise en charge. L'aspect préventif, c'est quoi? C'est comment est-ce que chacun de nous, en tant qu'élément ou membre de la société, peut arriver à mettre fin à la situation de l'errance. Mettre fin à la situation de l'errance, c'est quoi? Ça veut dire que si nous avons un parent malade mental, nous ne l'abandonnons pas. Mm-hmm. Parce que c'est possible de le récupérer, de le ramener vivre avec nous. Donc ça, c'est la prévention par rapport à l'errance. Mm-hmm. Il suffit tout simplement que chacun s'y mette dans le circuit de la prise en charge pour accompagner la prise en charge, parce que les structures d'accueil, les structures de prise en charge sont là. D'accord. Donc ça, c'est un aspect préventif. Un aspect de gestion, alors, c'est un travail à faire chacun sur d'abord sa propre représentation de la maladie mentale, telle que pour celle vient de l'expliquer. Mm-hmm. Et également, d'éviter, parce que des fois, la violence entraîne aussi la violence. Des fois, les malades mentaux, dans leur situation d'errance, peuvent se sentir agressés. Et c'est normal qu'ils répondent par la violence. Et cet aspect, la population ne le voit pas des fois. Ils ne le voient pas. Donc je pense qu'il faut que chacun joue sa part de partition, comme on dit.
Chacun prenne ses responsabilités, si on peut le dire comme ça.
En termes de prévention et en termes de gestion de cette vie d'errance des malades.
Voilà. Je pense qu'on est presque au terme de cette émission. Vous avez un dernier conseil à donner aux parents de ceux qui vivent ces situations-là?
Oui, le conseil que je donne, c'est comme toutes les maladies, plus tôt on consulte, plus facile est pour les agents de santé de gérer la maladie sans complications. Plus tard on consulte, plus tôt apparaissent les complications et le traitement devient difficile. À l'endroit de la société, je voudrais dire tout simplement que il faudrait que la sensibilisation continue un peu comme ça se fait maintenant, mmh. et que tous ceux qui peuvent, de quelque manière que ce soit, contribuer à améliorer la prise en charge des malades, et nous leur lançons un appel. D'accord. Merci.
Merci à vous, chers invités, d'avoir répondu à nos questions. C'est ici que prend fin le forum d'aujourd'hui qui a axé sur les maladies psychiatriques ici au Niger, la prise en charge médicale. Nous avons autour de la table le professeur Jibodou Mamega, il est médecin psychiatrique à l'hôpital national de Niamey, et monsieur Alfazazi Alzouma, psychologue toujours au même service de psychiatrie de Niamey. Ce qu'il faut retenir, c'est que le malade mental est un malade comme un autre, il a besoin d'être soigné et il peut être récupérable. Selon nos invités, tout le monde doit s'y mettre. Plus tôt le malade mental est soigné, plus tôt, il est récupéré. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain à 18h15 pour une autre thématique du Studio Kalangou. Au revoir.